Ne dites pas de secret d'État, sinon c'est foutu, hein. Ça va? Même si je ne communiquerai pas à la RTBF ou à la CIA. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme Et donc, nous poursuivons sur ce petit feuillet et je propose, je voulais être un peu plus loin ce matin, mais voilà, avec mes incises, j'ai ajouté trop de choses un peu, mais nous allons partir, si vous voulez bien, directement du 208 pour avancer vraiment sur la question. On parle du fondement du consensus, il y a le mot vérité qui était venu plusieurs fois, rappelez-vous. Au numéro 208, je le lis avec vous. Il faut s'exercer, dit le pape François, à démasquer les divers genres de manipulation, de déformation et de dissimulation de la vérité dans les domaines publics et privés. Oh, c'est costaud, hein. Le pape dit ça, hein, je pense d'un coup, quand on pense aux abus, ben, ça fait partie de ça, hein. Toutes les manipulations, les déformations, les dissimulations de la vérité dans le domaine public, public et privé. Je rappellerai toujours dans la fameuse campagne, je reviens souvent avec cet exemple-là parce qu'il est tellement fort, du désherbant, là, Roundup, merci. C'est criminel, point. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Quand on voit les dégâts que ça fait et qu'on les produit alors qu'on le sait, et ceux qui les fabriquent sont mis dans des conditions qui ne sont pas sérieuses, et je me dis, on dissimule la vérité. C'est dans des rapports, mais ça doit rester dans le conseil d'administration, on ne dit pas ailleurs. Et donc, c'est avant ce que nous appelons vérité, petit V, ce n'est pas seulement la diffusion de faits par la presse. Hein, on va dire, ah, ce journal l'a dit, c'est la vérité. Bof. Un même accident de voiture, je peux le décrire de beaucoup de façons, hein. Et on peut faire mettre des choses tendancieuses dans la description, comme on peut se contenter de faire un simple constat, mais bon. Et puis il ajoute, c'est avant tout la recherche des fondements les plus solides de nos options ainsi que de nos lois. Les fondements les plus solides. Ça, avec ça, on peut avancer. Et donc, c'est même pas encore comme chrétien ici, on est bien d'accord. Hein. Tout politicien devrait avoir cette dignité professionnelle telle qu'il cherche la vérité, même si c'est mal vu par ses confrères ou ses compères. De nos opinions ainsi que de nos lois. Cela suppose qu'on admette que l'intelligence humaine puisse aller au-delà des convenances du moment. Je suis au numéro 208. Donc, qu'on admette que l'intelligence humaine puisse aller au-delà des convenances du monde. Ça fait bon ton de penser bleu ou vert aujourd'hui. Je ne vais surtout pas aller dire que moi j'aime bien le rose, évidemment. Ça va être suspect. Doublement. Juste un homme, plus un, on va dire, c'est quoi cette affaire. Mais bon sang. Est-ce qu'on admet que l'intelligence humaine puisse aller au-delà des convenances du moment? Je prends toujours cet exemple, qu'à un moment nous attendions ma soeur jumelle et moi, à l'époque, la convenance c'était d'être en noir. La maman, en noir, pendant toute la portée. En noir. Le noir c'est le funérail, hein. C'est pas très... Elle était furieuse. C'est un événement formidable, on va mettre au monde et on va se cacher, parce qu'on va avoir un gros ventre et qu'il faut. La convenance du moment, noir. Aujourd'hui, on dirait ça, on dirait, t'es pas bien là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut oser dire, t'en sais quoi? et saisir certaines vérités qui ne changent pas. Et là, je crois vraiment, on entre dans du très délicat. Il y a des vérités qui ne changent pas, qui étaient vraies avant nous et le seront toujours. En explorant la nature humaine, la raison découvre des valeurs qui sont universelles parce qu'elles en dérivent. Bien sûr, il y a un problème délicat de savoir, quand on parle des droits de l'homme, il y a quelque chose d'ambigu, en partie, parce qu'on va parfois plus loin que cette question de la vérité. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui vit dans une toute autre culture de moi de nécessairement dire ma formule, chez moi c'est parfait, je sais tout. Non, il y a peut-être là aussi un consensus à trouver. Mais en attendant, il y a des choses qui sont vraies, quelles que soient les cultures. Ce sens du respect de la personne, ça traverse toutes les cultures, sauf là où il y a eu, en tout cas, tous les cœurs humains qui écoutent. Je dis bien qui écoute, qui s'écoute. Est-ce qu'on écoute sa conscience? Est-ce qu'on ose exprimer nos convictions qui sont là dans notre conscience? Ou bien non, on n'ose pas parce qu'on va trouver qu'on est ringard. Mais si je peux justifier, expliquer pourquoi je pense ça, je vais peut-être faire avancer le groupe, la société. Comme le sujet continue, j'en veux 209. Autrement, le pape François n'est pas aveugle, hein, ne pourrait-il pas arriver que les droits humains élémentaires, considérés aujourd'hui comme inaliénables, soient niés par les puissants du moment avec le consentement d'une population endormie et intimidée? C'est une horrible description de ce qu'on vit. On nous gave de toutes sortes de propos et de films qui nous endorment sur les valeurs humaines. Population endormie, intimidée, qui n'ose pas réagir parce que ce n'est pas le bon ton. Et c'est parfois même peut-être des responsables qui n'osent pas parler. Parce que, quelque part, les puissants du moment veulent promouvoir tel ou tel projets économiques, financiers, politiques, tout ce que vous voulez. Et ça fait quand même bien, c'est beau, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait de là? L'individualisme indifférent et impitoyable dans lequel nous sommes tombés, en disant ça, je pense en France, la télécom, quand ils ont vu comment il y avait eu des burn-out dans leur... parmi leur personnel, tellement là, il y avait une pression venant de la tête et que c'était reconnu finalement par des procès comme étant absolument inacceptable. Et voilà, ils étaient indifférents, c'est pour une autre, ils passaient outre comme si c'était des gars collatéraux. Nous sommes tombés, n'est-il pas le résultat de la paresse à rechercher les valeurs les plus élevées qui sont au-dessus des besoins de circonstances. Au-dessus, ah oui, il y a un besoin, il faut résoudre un problème là maintenant, ben on trouve une solution, et finalement, une solution qui est peut-être à des prix terribles, et alors parfois, comme ça a l'air de marcher, on continue. Donc, ce texte est costaud, hein. Il nous oblige à nous rendre compte que on est dans un mode de fonctionnement où finalement, ça fait partie du cœur humain depuis que le monde existe et que l'homme existe. Mais la volonté de pouvoir est telle que si j'ai des pouvoirs, je vais tout faire pour le garder et surtout pas permettre à quelqu'un de s'infiltrer, il risque de me l'enlever. Et ma foi, si je peux encore accroître le pouvoir, tant mieux. Quand on voit tout ce qui se passe sur le plan financier, sur le plan militaire, c'est jamais assez. Et ma foi, si je suis malhonnête, c'est pour une bonne cause, c'est pour que le pays soit plus fort. Oh, à quel prix? Je suis un peu dur là, mais c'est pour montrer que nous devons être lucides, sans jamais condamner la personne. Mais je peux condamner ses actes, ses paroles, ses choix. Je ne peux pas me situer au niveau du cœur profond. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. mais je peux dire ce que tu fais là, tes options, tes comportements, tes propos, je ne suis pas d'accord, parce que... Mais je ne peux jamais l'enfermer dans le mal, l'injustice ou le mal qu'il a fait. Jésus ne l'a jamais fait. Donc je ne peux pas non plus. Par contre, il est interpellé. Ce qui est mal est mal. Y compris chez les scribes et pharisiens. S'ajoute au relativisme le risque que le puissant ou le plus rusé finisse par imposer une prétendue vérité. Par contre, par rapport aux normes morales, c'est intéressant de voir cette phrase-là, la fin du 209, qui interdisent le mal intrinsèque, il n'y a de privilège ni d'exception pour personne. Que l'on soit le maître du monde ou le dernier des misérables sur la face de la terre, cela ne fait aucune différence. Devant les exigences morales, nous sommes tous absolument égaux. Même si la société ne va peut-être pas vouloir le reconnaître. Mais en âme et conscience, je réfléchis, eh bien, devant les exigences morales, mettons du respect de la vie de l'autre, nous sommes tous absolument égaux. Quand un président de République, comme il faut dire, avec bien sûr, une fois qu'il n'est plus président, qui peut être attaqué en justice pour les fautes commises, quelque part c'est ça. Il n'est pas couvert tout le temps qu'on fasse ça pendant son mandat pour éviter de paralyser le pays ou d'avoir une manipulation politique. Ok, mais en dehors de ça, non. Un évêque qui fait ce qu'il ne faut pas, il doit être condamnable, sur le plan sans doute de l'Église, mais aussi de la justice. Donc tout ça pour dire que ça nous oblige à sursaut de conscience. L'humanité, elle est comme provoquée à ça maintenant. Je fais semblant de rien, je me désespère devant le mal, ou je veux être constructif dans cette certitude que amour et vérité, pour un chrétien, là je passe vite à un niveau chrétien, mais amour et vérité vont ensemble. C'est pas que l'amour, c'est pas que la vérité. Justice et réconciliation, ça doit aller ensemble. Si je parle de justice alors que de réconciliation, s'il y a une profonde injustice et que je ne l'ai pas résolue, ça n'a pas de sens. C'est de la farce. Si je veux aimer quelqu'un mais qu'on n'accepte pas de faire la vérité, à quoi ça rime? Si je veux faire la vérité mais sans être dans l'amour, à quoi ça rime? Et donc, le consensus sur fond de vérité, de recherche de vérité. Alors, vous comprenez bien, quand on parlait tantôt dans le numéro 206 tout en haut, sous le couvert d'une prétendue tolérance. Aujourd'hui, sous le couvert d'une prétendue tolérance, on devrait accepter tous les points de vue. Où est-ce que c'est marqué, ça? J'ai le droit d'être en désaccord de fond. S'il y a une valeur qui me semble indigne de l'homme, contraire à l'homme, ce n'est pas une question de tolérance, ce serait une grave faiblesse. Ah oui, ce serait une grave faiblesse. Je laisserais passer quelque chose d'insupportable sous couvert qu'il faut être ouvert, quoi. Je me rappellerai toujours, je donne cette anecdote parce qu'elle est révélatrice. Un enfant de 3 ans, 15 jours, je connais cet enfant, 3 ans, 15 jours, qui dit un jour à sa maman, « Maman, comment ça se fait que parfois dans mon cœur je veux mal faire ?» Hein? 3 ans et 15 jours. La maman un peu sonnée en disant « Waouh, quelle maturité quand même hein? !» Bon, elle était catéchiste, donc elle avait quand même... peu de bouteilles, et elle essaye de lui donner une explication. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, je ne lui ai pas demandé à l'époque. Et elle lui répond, bon, l'enfant a l'air content. 15 jours après, donc 3 ans, 5 mois, 15 jours, elle revient sur le sujet et elle dit à sa maman, et comment ça se fait que c'est si bon de mal faire? Donc, à cet âge-là, elle avait conscience de ce qui était mal. Elle avait conscience, sapristi, c'est bon. Enfin, apparemment, c'est bon. Hein? On se sent bien là au moment. Nous, aujourd'hui, dans la société, on dirait, surtout, je vais caricaturer, n'écoute pas toute ta conscience, fais ce qui semble bien facile. Notre société ne veut pas nous encourager à cette écoute profonde. Si on fait ça, forcément, il y a plein de choses, et il ne faut pas être croyant pour ça, pour lesquelles on dit, oh, ben là, il me semble que tu vas trop loin là. Comment est-ce que tu justifies cette position? Est-ce que le chrétien n'est pas effectivement trop souvent endormi ou trop timide et qui n'ose pas dire, mais là, je respecte ta personne, mais je ne sais pas te rejoindre. Quand dans certains partis, on prend certaines positions, on devrait pouvoir dire, mais là, je ne sais pas te rejoindre. Alors, il y a des partis qui laissent libre certains choix dans le domaine éthique, d'autre part, mais ça montre bien qu'on est devant une question de fond. Si les chrétiens, je bascule maintenant, n'osent pas montrer la beauté de leur foi et la motivation, il ne suffit pas de dire, moi comme chrétien, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas très constructif. On sait juste qu'il n'est pas d'accord. Mais ce que je sais dire, pourquoi? Est-ce que c'est pour le plaisir de ne pas être d'accord, pour montrer que j'existe? Ou est-ce que c'est pour dire, mais non, ma vision de l'homme, elle est... je ne la retrouve pas là. L'homme vaut plus que ça. Et ce que tu proposes là, c'est du rabais. Mais je dois pouvoir l'expliquer. Pas condamner l'autre, mais pourquoi moi je pense à autre chose? Est-ce que on ose exprimer une motivation? Et même à certains moments, clairement sans la foi. La foi va la confirmer, c'est limpide. Mais même sans la foi, je me rappellerai toujours, quand j'étais enfant, il y avait des amis, des voisins, qui étaient clairement incroyants, options philosophiques et tout, mais respectueux. J'admirais ce sens du devoir qu'ils avaient. Voilà, ils n'auraient pas fait de mal à une mouche. Parfait. Il ne faut pas être croyant pour être bon. Il ne faut pas être croyant pour aimer. Mais comme croyant, on a la chance, le bonheur de... J'allais d'être accordé à la source, si on veut bien, pour trouver la joie et la force d'aimer à travers les événements. Quel bonheur. Et donc, on comprend le pape quand il dit, mais la vérité. Alors, pour nous chrétiens, la vérité, c'est sûr, au sens ultime, c'est quelqu'un, c'est Dieu, une personne. Et dans la personne, il y a tout. Il y a les propos, il y a les idées, il y a les... Bon. Mais ça se concrétise, évidemment. Quand Jésus nous invite à pardonner 77 fois cette fois, donc indéfiniment, c'est bien parce que il nous montre combien le Père des cieux nous aime jusqu'à nous pardonner indéfiniment, et il en est le signe ultime avec la croix. Et donc notre fondement, pardonner 77 fois, ce n'est pas une simple question morale. C'est un fondement éthique, la vision de l'homme qui nous vient de Dieu. Le sujet du pardon vient dans le chapitre suivant. Et donc c'est un gros chapitre, le chapitre 7. Voilà, pour aujourd'hui à le lire. Le pardon, c'est pas faire semblant, c'est pas oublier comme ça. Il y a des conditions pour pardonner, personnelles, et voilà. Il y a une différence entre pardon et réconciliation. Je continue. Donc, je passe au 211. Dans une société pluraliste, le dialogue est le chemin le plus adéquat pour parvenir à reconnaître ce qui doit toujours être affirmé et respecté au-delà du consensus de circonstances. Donc, il y a un sens fondamental du respect de la personne. ce qui doit toujours être affirmé, respecté, au-delà de parfois des consensus qu'il faut faire pour faire face. Il y a des inondations, bon, il faut faire face à plein de choses. Tout va peut-être pas se faire dans les règles de l'art, de la plus grande gentillesse, patience et tout ce qu'on veut, mais c'est évident que on va faire ce qu'on met en urgence. Mais, dis-le pas, il y a des choses qui doivent toujours être affirmées, quelles que soient les circonstances. C'est pas une question de couleur du temps, de valeur du temps. Alors, on touche une question de fond. Est-ce qu'effectivement, l'être humain, qu'il soit d'Australie, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Océanie, tout ce que vous voulez, est-ce qu'il y a, oui ou non, une vision de l'homme? Alors, on sait qu'on vient de loin. Quand on voit parfois ce qu'on a pu dire, nous, Européens, ouf, mais bon, entrons, et je crois que la société, et l'Église en tout cas, entre dans la nécessité d'une vision beaucoup plus fine, vraiment encore mieux fondée, marquée par l'Évangile. Accepter qu'existent des valeurs permanentes, c'est la phrase soulignée, même s'il n'en est pas toujours facile de les connaître, donne solidité et stabilité à une éthique sociale. Quoi qu'on est d'accord, hein? Si on peut reconnaître que l'autre, quelle que soit sa couleur de peau, sa culture, son âge, tout ce qu'on veut, son QI, tout ce qu'on veut, il a le droit fondamentalement au respect de la personne. Hein, si on peut dire ça, ce qui doit être le cas aujourd'hui partout, hein, même pas toujours chez nous, ça dit que c'est la ligne directrice en fonction de laquelle on veut bâtir une société, sur laquelle on veut construire les lois. Même lorsque nous les avons reconnues et acceptées grâce au dialogue et au consensus, oui, pourquoi? Parce que peut-être que je ne me rends pas compte de certaines choses. Et dans un dialogue franc entre tel groupe qui hurle de souffrance et qui voudrait qu'on l'écoute, et moi qui suis peut-être endormi, qui ne vois pas le problème, si je prends le temps de les écouter, je vais entendre leur souffrance, leur cri. Je vais pouvoir mesurer combien, dans ce qu'ils vivent, il y a quelque chose qui est profondément en contradiction avec ma vision de l'homme et de la société. Si je suis honnête, je vais essayer avec eux, dans les limites de mes possibilités à moi, ou alors avec d'autres, en tout cas déjà de changer de mentalité et d'entrer dans des rapports nouveaux où ils seront davantage reconnus pour ce qu'ils sont. Et en disant ça, c'est donc de la réciprocité. D'un point de vue culturel, je dois peut-être entendre le cri de l'autre, mais l'autre doit entendre mon cri. Donc il ne s'agit pas de s'écraser. Ça, c'est pas bon, ça. C'est avancer dans une reconnaissance mutuelle, mais il y a de telles disproportions. Là, je dois pouvoir dire non, là ça dépasse vraiment les situations les plus élémentaires. Je reparlais tantôt des dortoirs, mais c'est insupportable, c'est pas digne de l'homme, point. C'est une forme d'esclavage, c'est de l'exploitation. Donc, en Belgique d'ailleurs, on est poursuivi pour ça, et heureusement. Mais d'autres endroits où malheureusement, sur certains chantiers, il y a une cabane dans le fond d'un chantier, et pendant 6 mois, la personne vit là, dans des conditions. Et 6 mois après, elle aura peut-être allé voir sa famille. Si on n'a pas pris ses papiers, pour être sûr qu'elle ne parte pas. On doit oser entendre ça, non pas pour être des révoltés à vie, pas du tout, mais pour pouvoir reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas dignes d'une civilisation. Lorsque celui qui est fragile n'a pas une place possible et digne, est-ce que c'est une société civilisée? Pas François, une fois dit ça. 11-3 quand ils étaient Benoît XVI. On reconnaîtra la valeur d'une civilisation à la place que le pauvre et le petit lui est donnée. Ou bien du style, tu me gênes, pars. Ça pose, on doit oser entendre ça, et donc, c'est sûr que ça nous déstabilise, hein. Je ne vous cache pas que moi je l'ai dit, je dis pas, ça peut se dire. On apprend tous pour notre argent, comme on dit, hein. Mais ça montre quelque part que la vision de l'homme que le croyant peut avoir, elle est d'une telle beauté que c'est Dieu qui nous demande, est-ce que tu veux être artisan de cette beauté-là, témoin de cette beauté-là. Moi, Dieu, je crois en l'homme. Moi, Dieu, je crois en l'homme. Est-ce que tu as envie d'en être le témoin aussi? Au 213. S'il faut respecter en toute situation la dignité d'autrui, ce n'est pas parce que nous inventons ou supposons la dignité des autres, mais parce qu'il y a effectivement en eux une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances et qui exige qu'on les traite autrement. Tout simplement parce que tu existes, tu es. Indépendamment du faire, ta dignité est là. Que tout être humain possède une dignité inaliénable est une vérité qui correspond à la nature humaine, indépendamment de tout changement culturel. Oui, mais dire ça, frères et sœurs, mais on se rend compte que ça pose plein de questions sur le passé parfois, mais sur l'aujourd'hui. C'est sûr que quand on voit en Afghanistan comment sont traitées les femmes, à part là d'ailleurs, mais ben, si on lit ça, que tout être humain possède une dignité inaliénable est une vérité qui correspond à la nature humaine. C'est QFD. Hein. On ne peut pas tolérer que les femmes soient traitées comme ça. Point. C'est... Maintenant, il ne suffit pas que j'affirme ça. En disant ça, c'est pas pour ça que le Taliban va changer tout. Non. Mais je veux dire, si on n'est pas au clair au moins sur les valeurs, inutile de dire qu'on ne va pas savoir défendre des projets. On ne va pas pouvoir, autour de la table, dire « Ah non, là, c'est un incontournable, là. S'il n'y a pas ce respect-là, il y a des choses. » Mais comme, évidemment, le jeu politique s'en mêle, c'est ça qui est terrible, c'est de pouvoir distinguer entre l'aspect éthique, philosophique et religieux de tout l'enjeu économique, politique. Ça, c'est tout un débat qui va se préciser après. Mais je crois qu'il faut oser voir cette réalité en face. Alors, je poursuis dans ce même paragraphe. C'est pourquoi l'être humain a la même dignité inviolable en toute époque de l'histoire, et personne ne peut se sentir autorisé par les circonstances à nier cette conviction ou à ne pas agir en conséquence. En d'autres termes, quelle que soit l'époque, hier, aujourd'hui ou demain, l'homme n'a pas le droit de jouer avec ces valeurs-là. Elles sont inaliénables. Et donc, quelque part, quand on ne la respecte pas, on doit avoir le courage de dire « Non, là, je ne m'y retrouve pas. Ce n'est pas pour moi conforme à ma vision de l'homme, de la société. » Et nous, comme chrétiens, a fortiori, mais ça, les chapitres 7 et 8 vont pouvoir le montrer avec force. L'intelligence peut donc scruter la réalité des choses à travers la réflexion, l'expérience et le dialogue. Et alors, il ouvre déjà une porte là, en 214. Sur ce qu'on vient de dire là, ce fondement pourra paraître suffisant aux agnostiques c'est pas péjoratif qu'on te l'emploie l'expression-là, c'est une réalité, ceux qui ne sont pas croyants, pour conférer aux principes éthiques fondamentaux et non négociables une validité universelle ferme et stable. Pour les croyants, cette nature humaine, source de principes éthiques, a été créée par Dieu, qui en définitive donne un fondement. Et donc là il commence à passer sur l'autre registre. Il a pris le temps. Tout ce qu'il a pu montrer sur cette dignité, pour le moment, c'était même indépendamment de la foi, au nom d'une lecture sérieuse, audacieuse, mais sérieuse, sincère, des rapports humains. Cela ne conduit pas au fixisme éthique, ni implique l'imposition d'un quelconque système moral, vu que les principes moraux élémentaires et universellement valides peuvent générer diverses normes pratiques. Mais ça laisse toujours de la place au dialogue. Le chrétien, là, cette fois, le croyant, il peut dire au nom, je parle du croyant juif et musulman ici, au nom de notre foi en Dieu, créateur et père, pour nous, nous pouvons oser dire, c'est clair que ce respect de la dignité, pour nous, non seulement elle est vraie intellectuellement dans toute la révision qu'on peut faire, mais elle est tout simplement là dans le fondement même de notre foi. Si Dieu s'incarne, si par là il ne montre pas le respect, la dignité de la personne humaine, alors va-t-on. Donc, ça ne fera que renforcer en profondeur en nous montrant le cœur de Dieu. Mes sœurs, est-ce que, à travers tout ceci, est-ce qu'on ne peut pas dire que on est comme provoqué à oser voir la beauté de notre foi, la profondeur de notre foi, oser vraiment nous émerveiller de cette profondeur de notre foi et de que ne s'oppose pas à une réflexion sincère et authentique sur le plan philosophique avec des incroyants. Bien sûr, il y aura une différence à un moment donné, mais il y aura plein de points communs s'il y a cette sincérité, et nous pourrons reconnaître que ces valeurs, mais nous les portons au cœur même de notre foi, parce que Dieu lui-même vient respecter l'homme, il nous donne la liberté, et par le mystère pascal, il vient assumer ce qui est contraire pour nous donner de croire à la vie. Je vais simplement prendre alors dans la finale de 216. Non, j'ai quand même encore un peu passé au 217. La paix sociale, dit-il, est difficile à construire. Elle est artisanale. Artisanale. C'est d'une œuvre unique. Il n'y a pas de situation. Il y a des moyens classiques, mais le concret, c'est unique. Intégrer les différences est beaucoup plus difficile et plus lent, mais c'est la garantie d'une paix réelle et solide. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'entre des peuples parviennent à construire une paix durable si on n'a pas pu, dans le dialogue, imaginer un consensus où chacun puisse être reconnu et avancer? Au 218, ah oui, encore en 217 là, au milieu. Cela ne consiste pas non plus en une paix issue de l'étouffement des revendications sociales ou de la prohibition de toute protestation, puisque ce n'est pas un consensus de bureau ou une paix éphémère pour une minorité heureuse. C'est fort. Hein? Qu'est-ce qu'on veut construire? Ce n'est pas une paix éphémère pour une minorité heureuse. Il faut créer des processus de rencontre. Un peuple capable d'accueillir les différences. Outillons nos enfants des armes du dialogue. Oui, c'est vraiment un document par lequel il ouvre de profondes portes d'espérance. J'allais dire, même déjà indépendamment de la foi, mais a fortiori avec la foi, il y a déjà moyen pour qu'il y ait de bonne volonté. Quand le pape Paul VI a sorti son encyclique en 1963, Pacem et Terris, c'était une encyclique pour les hommes de bonne volonté, de tous bords. Il pouvait reconnaître dans cette encyclique quelque chose de profondément juste, même s'il n'était pas croyant. C'était un document vraiment important à l'époque. Ignorer l'existence et le droit des autres provoque tôt ou tard une certaine forme de violence, très souvent inattendue. Cultiver la bienveillance au 222, certaines personnes le font et deviennent des étoiles dans l'obscurité. Et j'ai envie de terminer là-dessus en vous invitant dans la chapelle, en allant vous promener, en étant sous la possibilité de rencontrer le Père Jean-Marc ou moi-même, de se dire, mais Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je retienne de ce chapitre, non seulement peut-être dans des choses très concrètes que je peux vivre dans mes relations à court terme, conjoint, famille, voisinage, paroisse, ou je ne sais pas, un groupe d'amis, mais aussi peut-être dans une façon d'envisager le regard sur le monde, quand on voit ce qui se passe sur le monde. Si ça me décourage, que je perds confiance, non, ce n'est pas juste. Enfin, ce n'est pas arrivé, on est bien d'accord, mais je veux dire, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment dit, mais au cœur d'un monde bouleversé, Dieu vient nous dire qu'il y a un chemin. Quel que soit, et c'est moi qui ajoute, ce qu'on peut voir comme épreuve, aussi horrible soit-elle, la victoire nous est donnée en Jésus. Je peux donc, avec lui, essayer d'apporter une présence qui dit cette foi en l'homme, cette foi en des chemins de consensus, en des chemins vers l'autre, un chemin qui passera aussi par le pardon, mais ça c'est pour la prochaine fois, le chapitre suivant. Et donc, notre vocation est toute belle. C'est les lumières de la terre, rien que ça. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Il n'a pas dit qu'on va être une usine à sel. Être un peu sel, ça change tout. Seigneur, tu veux nous donner un cœur qui bat un peu plus selon ton cœur. Un cœur qui peut avoir mal en voyant ce qui va mal. Mais n'est pas pour laisser tomber les bras, mais pour un peu mieux découvrir avec toi ce qui est à notre portée. Et d'être ensemble en communauté pour être signe qu'en toi il y a avenir. Bénis chacun et chacune et donne-nous pendant ce temps de silence de pouvoir nous laisser éclairer par toi. Amen. Bonne prière. Et que votre cœur soit dans la joie d'avoir peut-être conforté ou ouvert et conforté des découvertes grâce à notre pape François. Amen. À 3h05, nous retrouvons à la chapelle pour un temps de clôture de la prière. Ceux qui avaient gardé le petit feuillet de prière, qu'ils l'apprennent avec pour la chapelle. À tantôt.